En direct de notre passé, Jacques Mourican.
Bonjour, c'est à présent le dernier épisode d'En direct de notre passé que nous avons suivi donc pendant toute cette période des fêtes. Vous savez que nos camarades de la télévision proposent eux aussi tous les soirs sur RTS 1 à 19h05 un épisode de l'histoire suisse. Ainsi, par exemple, il sera ce soir question de la question jurassienne. Je vous propose tout de suite un petit écho sonore avant que nous ne venions à notre propre programme.
Madame, Monsieur, bonsoir. À l'instant où nous prenons l'antenne, une manifestation sans précédent vient d'éclater dans le canton de Berne. Les districts francophones de la partie jurassienne du canton sont révoltés. Ce serait l'humiliation faite à un élu jurassien de langue française qui aurait mis le feu aux poudres. Alors en direct de Delémont, ce 20 septembre 1947, nous retrouvons Didier Petitpont qui nous attend tout près de la manifestation, Didier.
Et oui, Jean-Claude, ici sur la place de l'hôtel de ville de Delémont, ce ne sont pas moins de 2000 jurassiens qui se sont rassemblés pour protester contre, je cite, l'affront fait au Jura par le Grand Conseil bernois. En effet, il y a quelques jours, les députés bernois ont refusé de confier la direction du département des travaux publics et des chemins de fer au conseiller d'État jurassien Georges Meucli, sous prétexte qu'il est de langue française. Alors, ici, dans le Jura francophone, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le Doubs. Aujourd'hui, à Delémont, on va même jusqu'à réclamer la création d'un nouveau canton.
Je suis anti-séparatiste. Il faut éviter l'éclatement du Jura. On peut vivre ensemble. À une époque où on cherche à effacer les frontières, il ne faut pas donner cet exemple qu'on ne peut pas dialoguer pour rechercher des solutions possibles.
Moi, je suis séparatiste, hein, et puis du fond du cœur, parce qu'on se fait exploiter par ces Bernois.
C'est un grand coup de bélier dans le mur bernois qui se prépare. En effet, le rassemblement jurassien lance une initiative cantonale afin que le Jura soit enfin reconnu comme un nouveau canton. Alors ici, vous l'imaginez bien, c'est l'espoir qui est au rendez-vous.
Madame, Monsieur, les jurassiens ont voté, les districts du Nord ont décidé de former un nouveau canton, alors que ceux du Sud ont décidé de rester bernois. Le Jura est donc aujourd'hui partagé en deux, mais tout reste encore à faire, car c'est maintenant au tour du peuple suisse tout entier de décider s'il accepte le Jura comme nouveau canton. Nous allons faire un saut de 4 années et nous nous rendons à Delémont. Nous attend Mélissa Bellanoni en direct du 25 septembre 1978. Pour connaître le résultat de ces votations fédérales, Mélissa, c'est à vous.
Eh bien oui, Jean-Claude, le peuple suisse a dit oui. Le Jura est le 23e canton de la Confédération. C'est un résultat aussi spectaculaire qu'inattendu, car tous les cantons ont voté oui, tous, même Berne. C'est une date historique.
Jean, alors, est-ce que ce scrutin va régler la question jurassienne ?
Écoutez, la Confédération se vante de faire vivre sereinement et positivement sa diversité. Cela n'a pas été possible entre le Jura et Berne, ils ont dû se séparer. Alors, la création d'un nouveau canton est sans doute une bonne chose, mais elle prouve qu'il n'est pas facile de vivre sous le même toit quand on ne parle pas la même langue. Enfin, je suis sûr, mon cher Jean-Claude, vous êtes fier d'appartenir à un pays autant français qu'allemand, italien, moi aussi, hein, mais enfin, vous le savez très bien, au quotidien, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est harassant. Hein, je m'excuse d'être aussi personnel pour une fois, mais bon.
Pour ce qui nous concerne, c'est de 1968 dont nous allons nous occuper, car oui, en 1968, la Suisse a été plutôt sage, à part à Zurich, il n'y a pas eu de gravissimes affrontements. Mais de la contestation, il y en eut bel et bien. En vérité, il se peut bien que l'éclatement cantonal ait fait qu'on n'a pas tout de suite eu une vision globale des protestations à l'échelle du pays. Or, Il y eut bel et bien un mai 68 en Suisse. Il va nous occuper toute cette émission grâce aux travaux de Damir Skanderovitch et Christina Spetti de l'Université de Fribourg. Mais il faut rappeler qu'avant cela, déjà, en Suisse, des groupes fatigués de la lourde atmosphère de la guerre froide s'étaient manifestés, surtout dans l'art et dans la littérature. Le fait le plus marquant de ces événements, c'est qu'ils restent cantonnés, en gros, au milieu intellectuel. La Suisse a alors un taux de chômage quasi nul, elle importe de la main-d'œuvre, tellement même que va survenir en 1969 l'initiative Schwarzenbach, qui affirme qu'il y a trop d'étrangers, que la coupe est pleine. Telle est donc l'atmosphère générale de cette période d'instabilité qui, bien sûr, doit aussi beaucoup à la situation à l'étranger, en France, en Allemagne ou aux États-Unis. Et ce sera donc notre sujet du jour.
Vous qui restez si bien de glace, souffrez que mes mots dépassent le peu de raison que je tienne quand vous laissez ma peine en disgrâce. Devant votre indifférence, je perds un amour immense pour lequel j'avais au départ, comme au jeu de hasard, peu de chance. Long est le chemin qui me mène vers le nouveau monde, aussi longue est la nuit qui me fait penser à vous. Leur magnificence n'égaleront jamais en vous cet orgueil qui se joue d'insolence.
Infotrafic RTS.
Soyez prudents si vous circulez sur l'axe Coire-Saint-Bernardino. On signale la présence d'un cycliste sur la chaussée entre Coire Nord et Coire Sud.
Damir Skanderovitch et Christina Spetti viennent de signer aux éditions Antipode, mai 68, en Suisse. Ils vont nous servir de fil rouge toute cette émission. Christina Spetti, Damir Skanderovitch, en histoire, en principe, une des questions majeures au départ, c'est de savoir quand est-ce que ça commence. Du reste, tout à l'heure, nous aurons aussi à poser la question de savoir quand est-ce que ça finit. Votre sujet, c'est les années 68 en Suisse, et évidemment, quand est-ce que ça commence vraiment ? Christina Spetti ?
Si vous me demandez quand est-ce que ça commence vraiment, je dirais peut-être quand même en 68, mais quand est-ce que ça commence ? C'est au cours, fin des années 50, début des années 60, on voit déjà les premiers mouvements des étudiants qui se forment. On voit déjà des, par exemple, à l'Université de Fribourg, il y avait déjà des protestations, par exemple, contre l'augmentation des prix à la Mensa, dans des autres universités aussi. Il y a le mouvement pacifiste qui se forme aussi, et tout ça, et ça c'est peut-être plutôt le domaine politique, mais aussi dans le domaine culturel, il y a pas mal de choses. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi des années 68. Donc ça commence au cours des années 60, et puis ça dure peut-être jusqu'en 69-70. Et puis après, il y a quand même une césure, parce que cette vaste coalition de gens, d'activistes qui se sont formés pour protester, pour contester ensemble. Là, on voit que cette coalition commence à se perdre.
Damien Skanderovitch, si je vous ai bien lu, vous insistez beaucoup sur, au fond, des points de focalisation, en effet, qui passent par des manifestations culturelles.
Absolument. Et je pense, pour ça, ce terme, même ce concept des années 68, c'est important de voir un peu cette longue durée aussi sur le plan culturel, aussi un peu sur le plan de perception, de mentalité, alors aussi d'une sorte de perception plus générale. Et ça se montre, après, plus concrètement, dans les manifestations d'art, culture, de films, de musique. D'un côté, des précurseurs, alors vraiment des mouvances, des scènes. Par exemple, les lettristes en France ou les situationnistes qui, après, dans les années 60 ou à l'année 66, 7 et 8, ont joué un grand rôle avec leur façon de se révolter, leur façon d'occuper l'espace public avec leur graffiti, etc. Prenons l'exemple de la musique, il y a quand même une césure dans les années 50 avec la venue en Europe du rock, du rock'n'roll, avec les blousons noirs en France, les Halbstark en allemand, comme on dit, qui ont, par leur attitude, montré une certaine contestation, un certain scepticisme vers une société assez cadrée, une société qui met des limites très, très fortes, et ils sont exprimés justement par le moyen de la musique, pas seulement en faisant la musique, mais justement aussi en écoutant cette musique. Et je pense que les facteurs culturels nous montrent cette sorte de longue durée, de cette longitude des attitudes ou des perceptions qui sont en 68, une sorte d'éruption après un long développement, un long avancement sur le plan culturel.
Alors un point quand même, c'est que en effet, si notamment sur le plan culturel, il y a comme ça, qu'est-ce qu'il faut dire ? Il y a un mouvement qui se dit non-conformiste, l'expression est bienvenue, c'est bien ça dont on veut parler. C'est peut-être qu'il faut redire le contexte des années 60. Comment l'état d'esprit suisse, on est quand même, si j'ose dire encore, est-ce que je me trompe, dans un certain conformisme, Christine Aspetti?
Oui, beaucoup, dans plusieurs domaines de la société. Au niveau politique, on avait l'intégration des sociodémocrates aussi, après 59. Donc il y avait un certain consensus aussi sur le niveau politique. Après, il y avait la guerre froide, qui était très très dominant, comme modèle aussi d'orientation, parce que oui, ça disait qui sont les bons, qui sont les mauvais, dans la société, mais aussi à l'extérieur. Et puis aussi pour des questions de morale, de sexualité, etc., on était encore très, très liés aux normes et valeurs de l'après-guerre, qui étaient encore très conservateurs. Donc il y avait un peu un déséquilibre entre le développement du côté économique, où là on avait les 30 glorieuses, là on avait vraiment beaucoup de progrès, la société de consommation qui se forme, et de l'autre côté, au niveau politique, mais aussi de morale, sociale, etc., on est resté dans un conformisme qui était encore très fort, donc il y avait aussi une tension là.
Conformisme, mais peut-être un petit peu plus, parce que, si je ne me trompe pas, il y a une surveillance politique, policière. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on se souvient par la suite? C'est beaucoup plus tard. Mais on se souvient de l'affaire des fiches. Dans ces années 60, on peut dire ce qu'on veut. Il y a des risques. Comment ça se passe?
En effet, c'est jusqu'au maintenant dans la recherche historique un peu des inconnus. Dans la perception publique, comme vous le mentionnez, maintenant on le sait. On le sait avec les scandales des fiches, mais c'est maintenant qu'on commence à travailler sur vraiment l'ampleur et l'impact de cette surveillance qui est directement liée à une disciplination, à un conformisme d'en haut qui a été octroyé dans ce temps-là. Beaucoup de ces mouvements, de ces scènes, appelons-les les non-conformistes, étaient justement confrontés à cette répression finalement, avec des cas très concrets qui allaient jusque dans des procédures légales. Et ça, on voit après aussi en 68, ce sentiment permanent d'être surveillé. Alors, on a décrit ça aussi dans le livre, ces moments qu'on sait très bien qu'il y a des gens de la police qui font prendre des photos, et alors leur contre-stratégie, c'était de prendre des photos justement de ces gens qui voulaient rester inconnus parce qu'ils étaient habillés en civil. Alors il y a vraiment un peu aussi un jeu autour de ça, mais je pense il y avait une conscience forte que finalement, si dans une société conformiste, on se montre, on agit d'une façon non conformiste, on risque d'être surveillé, chassé de son position professionnelle, etc. Mais il faut dire que dans la recherche historique, on est au début de voir un peu, c'est aussi à cause des archives qui s'ouvrent, commencent à ouvrir maintenant sur ces questions, sur ces dossiers, sur les fiches, on commence à reconstruire surtout l'impact sur les différentes personnes. Qu'est-ce que ça signifie pour les gens de vivre dans un État, dans une société, que si on s'exprime d'une certaine façon, on risque d'être sous surveillance? I'm not supposed to look at you the way I look at you. I'm not supposed to look at you the way I look at you. I wear my shades all day long and I sing it in a folk song too. No, I'm not supposed to wait for you the way I wait for you. I know I'm not supposed to wait for you the way I wait for you. So I pretend I'm on the go, I'd only meant to say hello to you. Then I'll sing la 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 la. I'd like to see you. Supposed to know the truth. You're not supposed to show. No, you're not supposed to know the truth. 'Cause boy, I need your breeze more than I need your keys. I do. And I sing la 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 la.
En direct de notre passé, Jacques Mourican.
Alors, mai 68, les années 68, hein, c'est le titre de votre livre qui paraît aux éditions Antipode, mais on ne peut pas tout à fait dire que c'est les années 68 en Suisse, dans la mesure où ça a été à des tas d'endroits de Suisse, mais ça n'a pas été la Suisse en entier, est-ce que je me trompe? C'est bien ça, Christine Hachpetti?
Oui, en fait, c'est peut-être un peu typique, mais c'est vraiment ici, c'est un phénomène qui est très, très fort, que, en fait, c'était dans les régions linguistiques que ça s'est passé. Et ils ont fait des essais de, en fait, de se connecter, de se lier toute la Suisse, mais ça a toujours sans succès. Et c'est probablement aussi dû au fait que, en fait, les régions linguistiques se sont beaucoup orientées aussi vers l'étranger, ce qui veut dire les alémaniques envers l'Allemagne, les francophones envers la France, et puis les tessinois envers l'Italie. Et comme le mouvement, bon, il y avait des aspects globaux, mais il y avait aussi, dans chaque pays, il y avait des revendications particulières. Et donc, en fait, c'était à la fin difficile de mettre ensemble toutes les revendications.
Mais poussons le paradoxe jusqu'au bout. Est-ce que vous diriez que c'est en quelque sorte ce mouvement suisse, il est plus influencé par l'extérieur que par des gens qui sont à 50 km ou à 200 km, autrement dit plus par les Allemands, les Français, peut-être les Italiens Vous en pensez, Damien Skanderovitch?
C'est les deux éléments, c'est les deux côtés qu'il faut voir la chose. Premièrement, les mouvements 68, c'était des mouvements globaux. Ça veut dire dans différents pays du monde, il y a une sorte de éruption, un moment contestataire qu'on peut observer. Mais avec aussi certaines idées, revendications qui étaient finalement aussi globales. Alors prenons la critique, comme on disait à ce temps-là, de l'impérialisme américain, ou justement plus concrètement la guerre au Vietnam. Alors ça, vous trouvez vraiment dans beaucoup de pays. Mais en même temps, c'était aussi des mouvements qui étaient ancrés dans certains contextes nationaux, régionaux ou même locaux. Et la Suisse, je trouve, c'est un exemple extraordinaire parce que ça montre que vous avez eu un cadre très global avec des références qui allaient en France, en Allemagne, mais aux États-Unis aussi. Mais en même temps, il y avait des groupes sur le plan local et régional qui avaient des demandes, des revendications. Prenons à Zurich même, le centre jeunesse autonome. Ça veut dire que c'était quelque chose de très concret qu'on voulait ce bâtiment, bien sûr, pour réaliser certaines idées, certaines utopies, etc. Mais c'était lié à un endroit, une localité très concrète. Ça veut dire qu'il y a un peu une sorte de relation entre le global et le local qui joue un rôle en Suisse, mais qui joue un rôle aussi dans des autres mouvements 68 dans tout le monde.
Alors ici, à Fribourg, où cet entretien est enregistré, il faut dire que c'est à Fribourg. Quand je pense qu'on est dans une université où il y a des crucifix de partout, bravo! C'est un peu incroyable que ça soit parti de Fribourg quand même, non, Christina Spetti?
Oui, c'était peut-être par accident que juste au semestre de printemps, le rectorat avait décidé d'augmenter les freins d'inscription et puis ça... Les étudiants ont réagi avec un boycott, donc c'était peut-être un peu par hasard. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que surtout sur le niveau des étudiants, c'est vraiment aussi en Suisse romande que ça commence. Donc si on regarde les mois mars, avril, mai, juin, en ce qui concerne les universités, c'est dans les universités romandes. Parce que tout de suite après Fribourg, il y avait à Genève et à Lausanne aussi, et puis même à Neuchâtel, il y avait des contestations. Tandis que dans ce temps-là, dans les universités alémaniques, il n'y avait pas beaucoup qui se passait. À Zurich, c'était plutôt dans les rues, on peut dire, avec le Globus Kraval, par exemple. Et c'était seulement après que le mouvement aussi prit sa vigueur dans les universités alémaniques. Mais je pense que c'est pas par hasard que ça commence en Suisse romande. Certainement sous l'influence de ce qui s'est passé en France. Par exemple, à Lausanne, ça commence par une démonstration de solidarité avec les étudiants français.
Vous m'avez dit tout à l'heure, Christina Spetti, ça ne s'est pas coordonné à l'échelle fédérale. Mais est-ce que ça intéressait? Est-ce que les étudiants de Fribourg s'informaient de ce qui se passait à l'université de Lausanne ou de Genève?
Oui, en fait, les journaux, par exemple, c'est aussi, en fait, ça, il faut jamais sous-estimer l'influence aussi de la télévision. Pas seulement sur le niveau national, mais sur le niveau global. En fait, c'est le premier mouvement social qui a vraiment profité aussi de la télévision, non seulement pour l'information sur cela, ce qui se passait dans les autres pays, mais aussi pour distribuer leurs revendications, par exemple. Déjà en été 69, on a essayé de coordonner entre les alémaniques et les romandes, mais ils se sont rencontrés, mais à la fin, oui, il n'y avait rien qui est sorti de cette rencontre.
Damir Skanderovic.
Je pense que c'est un point très important parce qu'on peut dire premièrement que le mouvement 68, c'était le premier mouvement télévisé, c'est-à-dire un mouvement qui utilisait aussi la télévision pour faire connaître ses revendications. On sait très bien, aux États-Unis, il y a plusieurs militants qui étaient très conscients et très intelligents, finalement, comment l'utiliser, ce nouveau médium dans les sociétés occidentales, pour se faire connaître en faisant, justement, des interventions, des happenings, des provocations, etc. En même temps, c'était aussi la possibilité pour le mouvement ou les mouvements eux-mêmes de savoir qu'est-ce que se passe à Mexico City, qu'est-ce que se passe à Manille, qu'est-ce que se passe à Tokyo ou à Belgrade. Cette notion globalisée de ce mouvement par l'intermédiaire de la télévision a beaucoup contribué aussi à cette ampleur, même pas côté de nombre, mais de l'ampleur dans la perception, dans la représentation de ce mouvement qui finalement, si on regarde certains pays, et la Suisse y compte aussi, étaient des mouvements pas énormes.
Jusqu'à 16h, en direct de notre passé, sur la première.
Que faut-il dire, Christine H. Petit, Damir Skanderovitch, que faut-il dire de ce que sont vraiment les revendications ? Est-ce qu'on est plus dans l'ordre du politique, plus dans l'ordre du social ? Quelle tambouille est-ce qu'on fait là autour pour mélanger l'un et l'autre ? En ce qui concerne les thèmes, Christine H. Petit ?
C'est justement typique pour le mouvement de 68 qu'on voulait changer tout. En fait, changer le monde, changer la société. C'est ça qui les différencie aussi après des mouvements sociaux des années 70, mouvement écologiste par exemple, mouvement pacifiste et mouvement de solidarité qui était beaucoup plus précis sur leurs revendications. En fait, oui, après, naturellement, il y a des revendications qui concernent plutôt une critique de l'armée, par exemple, une critique aussi du passé de la Suisse. Ça, c'était un peu peut-être analogue aussi à ce qui s'est passé en Allemagne. Il y a une critique aussi du comportement des Suisses dans les années 30 et 40, durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais en fait, oui, on peut vraiment dire en général que leur revendication principale était vraiment de changer le monde, la société, la vie.
Est-ce qu'il nous dit quand même une chose ? Est-ce qu'on est en droit de dire qu'ils étaient exaspérés ? Parce que, enfin, changer tout, je veux dire, rappelons une chose, à Fribourg, ça commence sur une histoire de prix des inscriptions à l'université. Là, on est dans du très, très matériel, très ponctuel. Vous me dites, oui, mais après, on passe à changer tout. Changer tout, ça suggère l'exaspération, est-ce que c'est juste ?
L'exaspération, mais aussi un espoir, non ? En fait, un optimisme qui est incroyable si on regarde aujourd'hui.
Mais oui, c'est ça, pour regarder le bon côté de la bouteille. Damir Skanderovitch, vous regardez quel aspect de la bouteille ?
Oui, et moi je pense, en effet, il y a une sorte d'attitude. Il y a une sorte de, en anglais, on l'appelle « spirit of 68 » ou « l'esprit de 68 » qui est quelque chose de plus large. C'est aussi une sorte d'attitude ample envers son propre pouvoir de changer. On y croit qu'on peut changer des choses. Alors, c'est clair, c'est un peu dans une perspective que c'est changer toute la société, le monde, etc. Mais ça donne aussi une certaine énergie après dans des choses très concrètes. Alors, dans une critique vers l'armée, dans des démarches d'autogestion, dans des petites entreprises ou dans des communautés de vie qu'on essaie de vivre sa propre vie, etc. Alors, je pense, le départ, c'est vrai, on y croit à la chose, on croit on peut faire quelque chose et après, on le transmet dans la vie du quotidien aussi. Et je pense 68 était à cause de ça aussi important d'avoir d'abord une sorte de critique ou une position critique de fond et sortir de cette critique, on essaie peut-être les changements qui sont arrivés, c'est dans des petits domaines.
Mais quelles sont les formes que prennent ces mouvements ? Qu'est-ce qu'on fait ? On occupe les amphithéâtres ? Il y a des barricades ? Comment ça se passe ?
Le mouvement de 68 était surtout aussi influencé par le mouvement en Amérique pour les trois des Afro-Américains, par exemple tous les sit-in, teach-in, go-in, c'était quelque chose qui avait été développé là-bas et puis qui a été repris par les mouvements 68 un peu partout. Donc, c'est aussi ça qui démontre un peu pourquoi à 68, il y a quelque chose de nouveau qui se passe si on compare avec d'autres formes de protestation dans les années 60, que justement leur stratégie était plus radicale que les autres, ils étaient plus pour vraiment contester.
Mais alors, j'imagine que tous les deux, pour faire ce travail, forcément, vous avez lu énormément. Est-ce que ça donne lieu à un torrent de publications ? Comment ça se passe ? Il y a beaucoup de journaux. Qu'est-ce que ça donne ?
En effet, il y a, c'était une des instruments, c'était aussi une des stratégies de publier, à ce temps-là, on parlait aussi d'une sorte de contre-presse, une contre-information. Si on regardait le paysage de la presse à ce temps-là, qu'on considérait comme très conformiste, qu'il faudrait trouver des organes qui justement montrent une autre réalité, des autres opinions. Alors, vous avez en effet des sources de ces différents groupes groupes qui ont aussi beaucoup écrit, qui sont aussi exprimés ou qui sont reflétés leur approche vers la société dans les mots. En même temps, il faut le dire, pour revenir peut-être encore à ce aspect culturel ou d'art, je pense, dans cette culture de contestataire, dans ces manifestations, il y avait des nouvelles formes qui étaient influencées justement par l'art contemporain, par la musique, par une sorte d'un esthétisme contestataire, même révolutionnaire. Ça veut dire qu'on arrivait à presque polariser certaines formes qui étaient dans ces espaces protégés pour un public intellectuel, pour un public éduqué. On est arrivé à les distribuer, à les mettre dans les rues et finalement aussi de les populariser. Ça veut dire que c'est aussi une sorte de démocratisation de l'art, de la culture en général, parce que certaines formes, le pop art, c'est le meilleur exemple dans le domaine de l'art, que ça a complètement révolutionné l'approche, la manière comment on a géré ou comment on a finalement aussi vendu l'art.
Ville des fêtes aux matins indécents qui dévoile ses rues à des étoiles tombées. Les spasmes de la nuit émeuvent quelques ombres tardives. Tout est futile, important, fugitif, tout est éternel. La ville remet ses cheveux pour la noce quotidienne du ciel avec le bleu. Tout est fragile, dangereux.
Giuro biedo, la mamma cal mangia di giuro biedo, a s'attacchi, fa maniana, fa maniana.
Après minuit, à la peau comme des sucreries d'Orient, on fait danser contre leurs fesses des amants étourdis. Coule la vie, coule l'insouciance, nos métamorphoses. Leur parfum de princesse enivre quelques cœurs fêlés. Ce versant lunaire a mille instants de sucre, mille instants de sel. Passe le vent, passe l'imprudence, nos bouleversements.
Giuro biedo, la mamma cal mangia di giuro biedo, a s'attacchi, fa maniana, fa maniana. Giuro biedo, biedo, giuro biedo, la fa, la maniana.
...15h-16h, en direct de notre passé.
Il faut, Damir Skanderovitch et Christina Spetti, que nous essayons quand même d'évaluer un peu l'importance de la chose. Parce que si on parlait du mai 68 français, si on parlait de mai 68 aux États-Unis, on n'aurait aucun doute. La France a été arrêtée pendant 3 semaines, donc on n'a pas de doute que ça a été un événement qui a surgi et monopolisé l'ensemble de l'espace public. Mais il faut poser la même question sur la Suisse. Et quand même, ce que vous nous avez expliqué depuis le début de cet entretien, relativement au fait que c'est très éclaté un peu partout, est-ce que vous diriez qu'à ce moment-là, ça fait la une. Qu'est-ce que vous en pensez, Christina Spetti? Vous avez l'air sceptique devant ma question.
Non. Pas trop. Non, parce que si, par exemple, si on regarde la Neue Zürcher Zeitung, dans les mois d'avril, mai, juin, on peut très bien reconstruire à partir des articles parus dans la Neue Zürcher Zeitung les événements dans les universités romandes. Et même si on peut dire que le mouvement était petit en Suisse, en ce moment, on ne savait pas encore en Suisse, mais on a très bien connu de l'étranger ce qui s'est passé. Donc on ne savait pas, peut-être, oui, bon, ce n'était pas très probable, mais que des événements comme en France se produira aussi en Suisse. Mais justement parce que si ça avait été seulement un mouvement en Suisse, pas sur cet échelon international aussi, cela aurait été différent. Mais je pense justement parce que c'était un mouvement global, parce qu'on avait plein d'articles sur l'Allemagne, les États-Unis, la France notamment, qu'on a quand même mis beaucoup d'attention aussi sur ce qui s'est passé en Suisse.
Daniel Skanderovic.
Je pense qu'il y a deux points. D'un côté, il y a cet effet amplificateur des médias, de qu'est-ce qu'on avait parlé avant, de cette sorte de première vague ou de premier moment qu'il y a des protestateurs très médiatisés utilisant des instruments médiatiques. Deuxièmement, il faut aussi voir, pour revenir un peu l'état d'esprit de la Suisse et aussi des autres pays à ce moment, c'était quand même un défi. C'était des attaques, une critique fondamentale sur certaines valeurs, sur certains développements qu'on pensait. On est heureux avec ça. Le développement de l'après-guerre a donné à beaucoup de gens, c'est ça le modèle. C'est ça le modèle social, économique, qui va donner à tout le monde le bonheur. Et là, il y a quand même une critique qui vient qu'il y a des autres bonheurs. Il y a des alternatives, il y a des autres modèles qui se différencient, qui se contradisent finalement avec ça qui était vendu et qui était aussi vécu comme bonheur pendant 20 ans après la dernière catastrophe de 1945. Même que c'était l'ampleur côté nombre, pas si grand, mais il y avait une sorte de mise en question d'un bonheur qui était dans le quotidien, que les gens ont profité, surtout en Suisse, parce qu'on était quand même dans un temps qu'on pouvait tout d'un coup tout acheter, parce qu'on gagnait assez. Et est-ce que ça, c'était le bonheur ?
On n'a pas parlé des ouvriers. Est-ce que les ouvriers sont à l'ordre du jour ? Alors, Christine Achvetti fait un grand signe pour dire non.
En fait, les acteurs de 68 auraient bien aimé ça. Mais si on regarde, par exemple, les sources, la réaction des syndicalistes, en fait, ils avaient presque un peu peur que, par exemple, les premiers... Ils avaient même des syndicats qui ont renoncé au cortège du 1er mai parce qu'ils avaient peur qu'on pourrait les déranger. Et ils ont dit aux jeunes, bon, vous pouvez participer, mais nous, on demande l'ordre.
Donc, il faut rappeler, peut-être qu'il y a un point qui est important, c'est que, si ma mémoire ne me trahit pas trop, c'est en 1959 qu'arrive un socialiste, le deuxième socialiste, se fera de ma part, au Conseil fédéral, ce qui indique une certaine normalisation politique. Et si j'ose la formule un peu triviale, c'est pas le moment de mettre le désordre. C'est un peu ça l'idée quand même, non ?
Oui, tout à fait. Je pense que les acteurs de 68 ont aussi assez très vite compris ça. Et puis après, c'était plutôt envers les ouvriers venant de l'Italie, ces personnes-là où ils ont trouvé, où ils ont pensé trouver un potentiel révolutionnaire.
Et ils l'ont trouvé ? Pas terrible.
Pas terriblement, ouais. Mais c'est vrai, peut-être que c'était aussi... Ça, il faudrait aussi regarder un peu plus de fond que nous, on a pu faire. Mais je pense que c'était aussi un certain paternalisme qu'on a après employé. On avait des idées fixes, comment les ouvriers ou les immigrants devraient s'organiser, avoir des revendications, etc. Mais... C'est clair que c'est pas un groupe clos comme ça, donc eux aussi, entre eux, il y avait des différentes idées, des différents intérêts aussi, donc c'était un peu théorique.
Mais par exemple, vous avez eu l'occasion d'écrire et de répondre à certains de mes confrères, Damien Skanderovic, que ici, dans l'université de Fribourg où cet entretien est enregistré, par exemple, le rectorat a réagi assez intelligemment en sachant pas faire de la provocation en sens inverse, si je puis dire. Comment les autorités, d'une façon plus générale, ont su ou pas su répondre ?
Là, je pense qu'il faut vraiment distinguer entre les différents moments, entre les différents endroits et les différentes autorités. En effet, les universités suisses romandes, c'est pas seulement Fribourg, ont réagi très vite d'une façon modérée, alors en proposant le dialogue. Vous trouvez ça à Fribourg, mais vous trouvez ça aussi les deux autres universités en Suisse romande. Ils ont d'un côté un peu appris de l'étranger, surtout de la France, que justement une politique que répressif, il y a le danger de l'escalation. Deuxièmement, il y a quand même aussi cette stratégie de diviser les mouvements. Alors ça, on voyait aussi dans ces différents endroits, aux universités, qu'il y avait à l'interne, tout d'un coup, tout un débat, tout un conflit. Est-ce que on travaille avec les autorités universitaires, ou en général avec les autorités, pour utiliser ce terme, ou justement on est en opposition parce que les autorités représentent la bourgeoisie, l'autorité, le pouvoir, etc. Alors il y a un conflit interne dans ces mouvements, entre ces différentes fractions, qui finalement ont affaibli ce mouvement. Et ça, vous voyez dans beaucoup d'autres mouvements sociaux, un peu le même processus. Alors, vous avez le monde des universités, mais vous avez des autres endroits. Par exemple, on a mentionné avant, dans les rues à Zurich, la répression, elle était quand même fort et dure. Et il y avait quand même ce sentiment d'un défi, d'un danger. Il y avait, si vous lisez la NZZ, certains journaux, une crainte, une peur de ces mouvements, qui menait à dire il faut vraiment avoir une stratégie que répressive par la police, par justement la surveillance, par une sorte de contre-peur. Et je pense ça, c'était pas seulement un phénomène que vous trouvez en Allemagne, mais aussi en France et des autres pays, que la réaction de l'État était mise sur la répression policier, etc. Là, je pense qu'il faut vraiment distinguer un peu les différents endroits. Mais Zurich, il y a quand même maintenant aussi des témoignages, il y a des recherches, des études qui montrent la police autour du Globus Crawl. Aussi, la violence, c'est toujours un symbole. C'est de dire, premièrement, qui a le pouvoir, et deuxièmement, de dire, là, ça, c'est les limites, c'est nous qui représentons l'ordre et aussi la société, et de dire là sont les limites. Et je pense très vite et très fortement ils voulaient mettre ces limites dans leurs réactions.
Qu'est-ce qu'on dit de ces jeunes gens et de ces jeunes filles? Quel est l'argument? Ils sont manipulés, ils n'ont rien dans la tête, ils ne pensent qu'à faire l'amour. Qu'est-ce qu'on leur oppose? C'est quoi les grands arguments qu'on utilise, Christina Spetti?
Bon, c'est peut-être il faut voir un peu dans quel domaine, disons dans le domaine politique, évidemment, on leur reproche d'être trop radical. L'autre concerne peut-être les communautés qui commencent à s'établir. Et puis là, il y a toutes les rumeurs de ce qui devrait se passer là-bas, même si on sait que la plupart, on avait fait déjà des recherches dans les années 70. Et puis, c'est avéré que la plupart des gens ont vécu en couple traditionnel, si on veut, peut-être pas marié, mais en couple. Mais il y avait beaucoup de rumeurs sur ce qui s'est passé dans ces communautés. Il faut quand même dire que beaucoup des étudiants venaient d'une maison bourgeoise, de ce background-là. Et puis, il y avait beaucoup aussi qui ont reproché qu'ils ne connaissaient pas la vie, la vraie vie, et puis qu'ils étaient gâtés, et puis qu'ils avaient trop de temps pour passer dans la rue.
Damir Skanderovitch.
Oui, en effet, je pense que c'est une sorte de stratégie aussi de délégitimation. Alors, de dire finalement, ces gens, pour différentes raisons, ils n'ont pas la légitimation de contester. Ils vont bien, et c'est vrai. Je veux dire, il faut pas oublier qu'une grande partie ou la grande majorité de ces militants venaient des familles bourgeoises, des familles avec pas mal de moyens financiers, etc. Ça veut dire, c'était aussi de dire, oui, qu'est-ce qu'il en veut encore s'ils ont déjà tout? Mais c'est exactement ce discours qui va très bien dans ce temps-là, parce que finalement, il y a tout le monde qui allait très bien. En Suisse, il y a tout le monde qui avait plus ou moins assez, sauf les immigrants. On en parlera peut-être, parce que c'est quand même un sujet très intéressant, la relation entre ces deux groupes. Alors, pour dire que ce discours que... Qu'est-ce que vous contestez si vous allez bien? En Suisse, c'est ça, justement, le paradoxe qui fait aussi, pas seulement en Suisse, mais en Suisse en particulier, en 1970, le pourcentage de gens qui n'avaient pas d'emploi, c'était 0,0%. Alors, c'était pas ça la contestation. Ce n'était pas ça le problème. Même si on allait bien, on pourrait contester. Il y a un peu deux perceptions, pas seulement du bonheur, mais aussi de la société. Est-ce que la société elle est seulement là pour justement donner les moyens qu'on arrive à se nourrir? Et c'est très fortement, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était ça le but principal, qu'on survit. Mais justement, les 68ards posaient la question comment on vit et pas seulement comment on survit.
Vous me tendiez une perche il y a un instant, alors je saute dessus, Damien Skanderovitch, vous me parlez des immigrants. Quel rapport entre les immigrants et la période de 68? Voulez-vous dire qu'ils se sont joints à la protestation?
Un premier point, c'est qu'il ne faut pas oublier que presque dans les mêmes années, il y avait en Suisse une hausse du qu'est-ce qu'on parle, le discours sur l'emprise des étrangers. Alors, vous avez eu le lancement de l'initiative Schwarzenbach, c'était en 69. En septembre, il y avait la votation sur l'initiative. Alors, il y avait tout un débat très musclé, très controversé sur l'immigration. Ça, il ne faut jamais oublier, si nous, là, on parle des 68 tard ou des années 68, qui ont quand même imprégné la Suisse d'une façon. Il y avait encore une autre Suisse à ce moment-là. Premièrement. Deuxièmement, on a vu ça dans nos recherches très fortement, que finalement, le mouvement de 68 était plus ou moins le seul mouvement qui soutenait les immigrants, ou plutôt qui était contre ces mouvements anti-immigratoires, ces initiatives anti-immigration, ces milieux xénophobes d'une façon claire et nette, qui disaient que ça sort d'une xénophobie, qui faisait aussi une analyse de discours, comment ça, ces gens semaient une sorte d'attitude envers les étrangers. Si on compare avec des autres milieux, aussi de gauche, aussi de droite, il y avait quand même, et c'était aussi une des raisons, même qu'on disait ça va pas cette initiative, on peut pas l'accepter, surtout pour des raisons économiques, finalement, il y avait pas cette sorte de solidarité, premièrement, et deuxièmement, ce contre-discours fort sur le niveau d'égalité, sur le niveau aussi des droits de l'homme, comme c'est venu des mouvements de 68. Et ça, c'est nouveau une particularité suisse. C'était un mouvement qui prenait clairement position sur une question qu'on ne trouverait pas dans les autres pays européens. Ce n'était pas les débats politiques en Suisse, c'était le débat politique fin des années 60.
Il nous faut aller tout doucement à la fin, parce qu'on a beaucoup discuté, tous les trois. Christine Aschpetti, j'imagine bien que si vous faites ce livre, c'est parce que vous pensez que c'est important. Qu'est-ce qui va rester dans les 10, dans les 15, dans les 20 ans de ces années 68? Donc quand même, vous avez montré que faut pas exagérer, ça n'a pas été considérable, etc. Qu'est-ce qui, à votre avis, dans l'actualité suisse, même peut-être le fonctionnement des institutions, en quelque sorte bascule?
En fait, si on regarde les effets immédiats, par exemple, il y a quand même dans la gauche suisse une pluralisation, la nouvelle gauche qui émerge avec les partis aussi, les progressives et organisations de la Schweiz, la Ligue marxiste révolutionnaire, par exemple. Donc là, il y a une diversification aussi. Si on regarde, avant, c'était seulement les socialistes et les communistes. Après, il y a toute une diversification. On pourrait dire que c'est un effet immédiat qui est aussi très bien mesurable, si on veut. Maintenant, pour des autres effets, c'est difficile de savoir si c'était vraiment un impact de 68 ou si c'était le développement général de la société qui a été peut-être accéléré par le mouvement 68 en ce qui concerne, par exemple, la liberté individuelle, la liberté sexuelle aussi, tout ce qu'on, aujourd'hui, normalement, si on parle de 68, on parle de ce domaine-là, liberté sexuelle, une individualisation aussi, les gens sont plus libres à choisir leur mode de vie, une certaine émancipation aussi, certainement des femmes. Mais ça, c'est difficile à savoir justement parce qu'avant, déjà, ça a commencé un peu. Il y avait déjà ces groupuscules non conformistes qui avaient les mêmes revendications. Donc, c'était peut-être accéléré par le mouvement 68, mais c'est difficile de savoir exactement l'impact.
Est-ce qu'on peut repérer des leaders de ce mouvement de 68 aujourd'hui. Est-ce que vous diriez qu'il y a, vous savez bien qu'en France, par exemple, il y a un certain nombre de leaders de mai 68 qui sont devenus, par exemple, patrons de presse. Est-ce qu'on peut faire ça en Suisse?
Non. C'est justement, si on compare avec les autres pays, c'est intéressant que déjà dans les années 68, 69, 70, on n'a pas tellement mis en avant des leaders. Si on compare avec la France, je ne sais pas, en France, c'était probablement aussi les médias qui ont choisi, qui ont désiré qu'il y aura un leader. Et puis, il y avait Cohn Bendit qui s'est bien présenté là-bas. Mais en Suisse, déjà, pour les années 68, 69, on ne connaît pas tellement les leaders. Donc, c'est souvent des groupes, des organisations qui signent, par exemple, des tracts et pas tellement des personnes. Et je pense que même après, parce que c'était peut-être dans le climat aussi de la guerre froide qui s'est bien prolongée dans les années 70, que je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'osaient pas tellement dire qu'eux, en fait, ils avaient été... avait été membre de ce mouvement. Parce que oui, c'était un sort de tabou même. On le voit aussi dans la recherche parce que ça a pris longtemps. En fait, aujourd'hui, c'est les filles, les enfants des 68 heures qui écrivent l'histoire de 68 et pas les anciens acteurs eux-mêmes.
Damir Skanderovic.
Votre question là sur qu'est-ce qui va rester, 60, on est plein dedans. Je veux dire, nous, maintenant, on en discute qu'est-ce qui va rester. Et je veux dire, les historiens et les historiennes, on s'intéresse beaucoup aussi à ces sortes de combats, ces contestations autour de la mémoire. Et là, on est en train aussi de parler de ça. Alors, qu'est-ce qui reste chez les gens qui étaient concernés, mais surtout aussi dans une mémoire collective de 68. Alors je pense que la Suisse, elle est vraiment au début de cette sorte d'itinéraire mémoratif autour de 68, aussi en retard si on compare avec les autres pays, parce qu'on sait, en France, ça a déjà commencé en 78, et en 88, et en 98. Avec ces recherches qui, en 2008, il y en a plusieurs études qui sont sorties, maintenant, on est en train de se confronter. Qu'est-ce que c'était 68? Qu'est-ce que reste 68? Et surtout, les différentes instances, les différents acteurs aujourd'hui qui donnent une certaine définition de 68. Alors là, on sait ces dernières années, dans le monde politique par exemple, il y a plusieurs partis, plusieurs personnalités qui revendiquent qu'ils savent qu'est-ce que c'était 68. Que beaucoup de conséquences ou beaucoup de développements sont maintenant encore, on les sent dans l'éducation, dans le social, dans l'immigration, etc. Ça veut dire, eux, ils ont une certaine notion, une opinion claire, qu'est-ce que c'était 68, mais on ne le sait pas, juste qu'il faut d'abord faire la recherche historique, et après, regarder comment, et ça c'est un travail très intéressant pour les historiens, comment ces recherches et aussi cette mémoire est utilisée pour des buts, pour les fins très actuels, très quotidiens, très politiques finalement. Ça veut dire, ce combat autour de la mémoire de 68, ça vient que de commencer.
Merci à vous d'être restés fidèles au long de ces deux semaines d'émission à En Direct de notre passé. Mais je vous rappelle que ce soir, nos camarades de la télévision RTS1 à 19h05 programmeront un épisode consacré à la question jurassienne. Et puis je vous indique aussi que demain, ils auront un autre épisode qui sera consacré au Gothard.
Cause I was up to play with girlies, and I was up to share my candies. It's all I got. Easy. Without the form, drawn by the greatest man of all, he was not sure about it. She had all of an angel, driven by his unbelievable great mind. The master lost control and made a fool out of me. Thought about all the girls playing around me, bailing like flowers, then decided not to care. Cause I was up to play with girlies, and I was up to share my candies. It's all I got. Easy, cause I was up to play with girlies, and I was up to share.
Merci à Jean-François Miseret qui a réalisé cette émission et à Nathalie Schauenberg qui en a sélectionné les musiques. Bon après-midi à l'écoute de nos programmes. Il est 16h.
En direct de notre passé, avec Le Quotidien Le Matin et son site lematin.ch.